Bonjour à tous et à toutes, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui du fameux, on va dire, un cours en miracle, où, comme je vous l'avais précédemment annoncé, est un outil exceptionnel pour pouvoir effectivement, on va dire, casser tout ce qui appartient au mental ego. Donc d'abord, je vais faire une rétrospective historique pour simplement situer quelle était la problématique quand les canaux, donc un couple, un homme et une femme, ont reçu cet enseignement. Il faut savoir que cet enseignement, ils ont commencé à le recevoir en 1965, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement un demi-siècle. 1965, vous vivez, on va dire, en Amérique du Nord. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que déjà, les 68ards qu'il y avait en France, ben, ils n'étaient pas encore dans la rue. C'est-à-dire les cheveux longs et compagnie et compagnie, et pas la guerre et compagnie. Il y avait aussi un deuxième élément, c'est que nous étions bien sûr en pleine guerre froide. C'est-à-dire que les Américains étaient quand même assez remontés contre les Soviétiques. Donc c'était assez glacial. Or, nous savons aussi, entre autres, que les Américains sont quand même le nouveau monde qui a débuté il y a, on va dire, 500 ans avec Christophe Colomb. Donc ils ont été surtout très orientés vers un nouveau monde qui, bien sûr, a été basé sur, on va dire, la Bible principalement. En clair, tous ceux qu'on voulait pas en Europe, eh bien, ils sont partis aux États-Unis. Donc ça a donné un espèce de protestantisme puritaniste et où un Américain moyen vous balance des versets de la Bible comme chez nous on ne le ferait absolument pas. Donc nous avons affaire à deux canaux qui se retrouvent dans la configuration que je vous avais décrite dans une vidéo précédente. C'est-à-dire que la galaxie était confinée, que le Soleil avait des informations très amoindries. Que le deuxième voile de l'oubli, qui était l'enfermement de la planète, était à son maximum, surtout que, bah, comme je vous disais, c'était la pleine guerre froide, pour pas dire gelée. En clair, eh bien, les entités qui devaient donc faire passer le message étaient donc obligées de se fader, donc étaient fortement dégradées, on va dire, et devaient passer à travers tous les égrégores assez costauds, hein, notamment, comme je vous disais, de ceux de l'Américain du Nord. Partant de là, vous imaginez bien que la réception qui a été faite ne pouvait se faire autrement que par la bibliothèque qui était contenue dans le cerveau de ce couple d'Américains. Voilà, entre autres, quelles sont les conditions qui ont amené, on va dire, la fameuse entité à causer comme il a pu le faire. Alors ça a été extrêmement tarabiscoté pour la simple bonne raison, c'est que pour démolir un mental ego complètement empreint de religion à ce point, ben, il fallait vraiment ruser très fort. Donc voilà un tout petit peu l'historique. Ensuite, si ma mémoire est bonne, ce cours en miracle a été traduit en de multiples langues et surtout à partir des années 80. Puisque le fameux couple, disons, gardait ça sous le coude et se disait, ouais, bon, ça vaut peut-être pas le coup de le faire connaître à tout le monde. Donc, il y a, on peut dire, eu des milliers de gens qui se sont cassés un peu les dents sur cette affaire. Et autant chez les Américains, ça pouvait encore fonctionner, puisqu'ils étaient quand même relativement assez imbus de religion et de Jésus-Christ, forcément. Eh bien, en Europe, ça n'a pas forcément marché du pareil au même. Donc aujourd'hui, la donne est totalement différente. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans cette configuration-là. Voilà, c'est-à-dire que nous nous retrouvons dans la configuration où, on peut dire globalement, tous les filtres ont été ôtés. Donc, tout l'aspect bondieuserie de ce fameux cours en miracle est à décaper d'une manière ou d'une autre, et c'est la mission que l'on m'a un petit peu confiée, c'est-à-dire de vous dire l'essentiel des choses, et ceci sans utiliser un seul mot religieux. Et bien sûr, sans compter les 1500 pages de bouquins qui sont relativement imbuvables, vous pouvez l'imaginer. Bon, il y en a qui y arrivent, mais si on peut y aller beaucoup plus vite, car aujourd'hui, nous sommes pressés. Pressés dans la notion qu'il faut absolument qu'il y ait un maximum de gens qui puissent comprendre qu'ils sont dans un rêve. La chose n'est pas simple. Mais ce n'est pas impossible si on s'en donne les moyens. Donc voilà, je vais donc commencer cette première vidéo. Maintenant que vous avez vu l'historique, donc sachez que je n'ai rien contre un cours en miracle. Simplement, c'est que c'est un outil qui, dans le fond, est super, mais qui, dans la forme, est strictement imbuvable. Enfin, pour moi et donc pour aussi une grande majorité de gens. Alors maintenant, eh bien, nous allons passer donc à la partie, on va dire, essentielle, dans un premier temps, car vous pouvez imaginer que résumer 1500 pages de bouquin, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc ici, moi, j'ai appelé ça l'UCE, DES. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un cours en miracle dépoussiéré et simplifié. Et donc, je vais vous parler de la boucle réelle de l'illusion qui est appelée rêve. En effet, nous partons sur un postulat relativement très simple et qui va s'étayer bien sûr à fur et à mesure qu'on va avancer. Il y a d'abord ce qui est. Donc, je ne vais pas parler de Dieu puisque j'ai dit que j'allais utiliser aucun terme, puisque je vous rappelle que Dieu appartient à un égrégore strictement terrien. Donc, nous allons parler du sans-nom, c'est-à-dire d'une entité qui a pour objectif de découvrir qui elle est. Donc, dans sa grande sagesse, cette entité, qui est absolument immobile, va, on va dire, entraîner un mouvement. Alors, tout est cycle, on va dire, d'une certaine manière. Donc, il y a un début et une fin, si on peut dire, puisque tout tourne. Donc, si on met un point de départ, eh bien, je vais vous montrer cela. Donc ici, on fait un cycle, c'est-à-dire qu'à partir de ce qui est, eh bien, on va aller faire un petit tour ailleurs pour revenir. Alors, on va aller vers quoi? Eh bien, vers ce qui n'est pas. Vous voyez, c'est très dualitaire comme affaire, mais c'est comme ça. Donc, ce qui est, donc le sans-nom s'est dit, bien, et je vais donc descendre vers ce qui n'est pas, et je vais donc ensuite revenir. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que ici, on part de la vie et puis on va aller à la mort. Hein, c'est des grandes lignes. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez toujours ergoter, mais globalement, ce qu'il faut, c'est comprendre comment ça fonctionne. Donc, la voie descendante, puisque ici, il est parti, vous savez que le surnom est vibration, pure vibration. Hein, donc d'ailleurs sa partie féminine, là je rajoute un petit point, la partie féminine s'appelle la source et la partie masculine s'appelle le sans-nom. Parce que le sans-nom plus la source, ben, ça fait l'un. Puisque ce n'est pas divisé, simplement l'un a une partie masculine et féminine dans sa conception par rapport à lui. Donc eh bien il a fait donc une voie descendante, hein, c'est-à-dire qu'il est descendu vers ce qu'on appelle la matière. Il a condensé la matière et il s'est dit, bon, allons voir ce que c'est cette matière. Mais maintenant, vous savez tout comme moi que la matière n'est que du vide. Et que cette matière, nous pouvons l'influencer par notre simple pensée. Et pour cela, il faudra encore avancer un petit peu, on va dire, dans les cours. Donc, la partie descendante, on va dire, est ni plus ni moins la voie de l'ego. Et on va voir à quoi ça mène. Alors, la voie de l'ego, c'est d'abord celle qui est la voie de l'éloignement. C'est-à-dire que l'entité XYZ, c'est-à-dire nous, hein, c'est-à-dire une particule de lui, hein, puisque nous sommes tous une partie du sans-nom, eh bien, une partie individualisée, nous allons faire un petit périph et puis revenir. Donc ici, c'est la voie de l'ego. Donc, c'est la voie de l'éloignement. On va s'éloigner de ce qui est. Donc, il va en être un sentiment de séparation. C'est normal, on se sépare de nous-mêmes. Hein? Donc, ce sentiment de séparation va amener ce qu'on appelle la peur de la mort, puisque nous savons que ceci est vie et vibration, et qu'en allant dans la densité, cette vibration s'amoindrit, jusqu'à ne pas savoir jusqu'où ça va aller. Et donc, cet éloignement va amener aussi le sentiment du manque, puisque nous nous éloignons de la vie, de la source, eh bien, on va avoir un problème, on va dire, de garde-manger, d'une certaine manière, vibratoire. Donc, ce qui amènera une notion de le prendre, c'est-à-dire que bah, tout ce qu'on pourra prendre à droite, à gauche, on va le prendre, on va se l'accaparer parce que on est dans un état de manque, dans un sentiment de manque. Et donc, on verra que le prendre acceptera, demandera aussi un autre truc, c'est d'accepter de donner, puisque si vous prenez, bah, vous avez une difficulté, c'est que il faut partager. Parce que si vous ne donnez pas, vous avez un problème quelque part. Puisqu'il y a une loi dite de l'équilibre, qui dit que si vous voulez recevoir, il faut commencer par donner. Donc si vous voulez recevoir de l'amour, commencez à donner de l'amour. Si vous voulez recevoir un bout de pain, commencez déjà à en donner un. Enfin voilà. Et puis, je vais vous mettre tout de suite en opposition, opposition sans que ça soit une opposition, puisqu'on voit que c'est un mouvement, donc on n'est pas... nous pouvons penser à une opposition quand nous sommes dans la dualité, là on descend, donc on remonte. C'est une opposition. Effectivement, les deux forces peuvent s'opposer. Par contre, si vous prenez bien sûr le recul nécessaire, vous vous rendez compte que c'est un cycle et que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est bien complémentaire. Alors, ici, j'ai mis la voix de l'ego, puisque l'ego, en fait, naît d'une peur. S'il n'y avait pas la peur de la mort, il n'y aurait pas d'ego. D'ailleurs, c'est à fort à mesure qu'on va avancer sur le chemin qu'on va le découvrir. Alors ensuite, ici, ce que je vais vous mettre, c'est bien sûr la partie qui est en opposition complémentarité. Donc ici, c'est pas la voie de l'éloignement comme celle de l'ego, c'est la voie de la réunification. C'est-à-dire, on revient vers la source, vers la vie. Et donc, ça donne un sentiment d'unité. Quand nous sommes sur ce chemin, nous sommes dans un sentiment d'unité, de l'unité, c'est-à-dire de ce que vous ressentez en termes unitaires. Ensuite, forcément, en revenant à la source, vous faites un retour à l'abondance. Vous avez ce sentiment d'abondance. Quand vous avez ce sentiment d'abondance, vous êtes dans le donner. Cependant, pour être en équilibre, il faut accepter. Il faut accepter le recevoir. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc ici, quand on est dans la voie de l'ego, la voie descendante, on veut prendre et on a du mal à donner. Ici, on aurait tendance à donner, mais il faut aussi accepter à recevoir, puisque c'est une loi de l'équilibre. Je vous rappelle. Donc maintenant, nous allons voir que cette voie de l'ego, c'est donc la voie qui mène à la densité, qui mène à une descente vibratoire. Donc dans un environnement de matière, puisque ici nous remontons plutôt vers un environnement vibratoire. Donc ici, je vous fais un petit résumé aussi. On va utiliser donc ce qu'on appelle la voie du mental, puisque le mental est là en 3D pour gérer l'environnement. Et donc la force du mental, c'est qu'il veut comprendre le pourquoi des choses. Il veut avoir le sens. Parce que s'il n'a pas de sens, si ce que vous faites ou vivez n'est pas imprimé par une direction, ça n'a pas de sens pour vous. Donc un aspect totalement chaotique. Et c'est le cas, vous allez me dire. Et donc le mental, lui, sa force, c'est j'analyse. Et ensuite, je mets des étiquettes. Donc on va s'amuser à donner des noms à tel oiseau, à tel arbre, à tel machin, etc. Et de dire si l'eau coule, c'est parce que, etc. Et donc on va voir cela amène une vision linéaire et aussi sectaire. C'est-à-dire que nous tombons dans une vision d'espace-temps, puisque nous sommes... dans une matière, donc il y a un espace, et comme il y a une interaction dans cette matière, on a une notion de temps. Donc ces notions d'espace-temps vont nous amener à voir la vie comme un passé et un futur, c'est-à-dire ne pas vraiment prendre en compte ce qu'on appelle le présent, parce que pour les gens qui sont dans cette voie-là, le présent n'est que la frontière entre un passé et un futur. Et donc si votre présent, vous le mettez, vous l'exprimez en millisecondes, vous ne le voyez pas, quoi, hein, tout simplement. Ceci amène donc la notion de processus, de programmation, de progression. Hein, et donc on va voir aussi de programmation d'une certaine manière, et donc aussi de projection, hein, vers un futur. Donc tout est en boîte et toutes les boîtes doivent se suivre et c'est comme ci et c'est comme ça. Donc on est forcément sur un chemin et on fait un pas après l'autre. On ne voit pas autrement comment on peut faire. Et donc ceci amène, on va dire, une fabrication de croyances. Puisqu'à un moment donné de notre vie, eh bien, nous avons découvert que quelque chose fonctionne et donc par sécurité, nous fabriquons des règles. Donc ces règles deviennent des croyances, puisque quand elles sont partagées par un nombre suffisant de personnes, eh bien ça s'appelle des traditions, voire des religions, enfin ça devient des absolus, hein, tout simplement. Ensuite, eh bien ces absolus vont forcément amener des limites à ne pas franchir, par principe, puisqu'on s'est dit, tiens, si tu sautes de la falaise et tu n'as pas des ailes, tu vas forcément mourir. Hein? Sauf qu'ils n'avaient peut-être pas prévu qu'on puisse avoir un parachute ou un deltaplane. Donc, quelque part, nous sommes dans une attitude, eh ben, j'ai jamais fait des fautes. Une attitude de fermeture. Et cette attitude de fermeture se fait principalement par le contrôle. On veut tout contrôler. Le mental veut absolument tout contrôler. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène que dans l'aspect densité, si je le mets comme ça maintenant, on croit que la matière est réelle. L'individu croit qu'il est son propre corps physique. Il croit qu'il est sa personnalité, c'est-à-dire comment il se construit psychologiquement parlant. C'est-à-dire en fonction de tous ses échecs, de tous ses succès, et bien sûr de l'environnement familial qui est quand même lui inculqué aussi d'autres sentiments d'être coupable, ou d'être un moins que rien, ou d'être un génie, enfin bref. Ensuite, il va croire qu'il fabrique sa vie, puisque la société lui dit qu'il va fabriquer sa vie, en fonction de ses décisions, basées forcément sur des croyances, et en fonction, on va dire, de l'accès à un certain savoir. Il croit en la chance, et à sa bonne ou mauvaise étoile. Il croit en l'espoir d'un futur qui sera meilleur. Forcément, donc quels que soient tous les coups qu'il se prend, eh bien, il se relèvera, parce qu'il a l'espérance d'un monde meilleur. Il croit qu'il est un pion dans la dualité. Donc de ce fait, il est en action-réaction permanente. Il croit qu'il faut se battre pour survivre. Il croit donc que la vie est compétition. Il croit que de toute façon, il finira au cimetière. Donc on voit bien que cette voie de l'ego est une voie d'apprentissage, hein, qui mène sur ce qui n'est pas. Et qui n'existe pas. La mort n'existe pas. Mais selon la voie de l'ego, elle existe, elle est bien réelle, puisque on s'accorde à dire que nous sommes notre corps physique. Alors, maintenant, quelle est la différence avec celui qui, en fait, remonte ? Eh bien, d'abord, on va voir qu'il va... Allez, tiens, je vais partir. Bon, allez. On va partir comme ça, parce que c'est une progression, hein, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas instantanément que les choses viennent, mais globalement, il va prendre conscience. Alors, quand on suit la voie de l'être, c'est-à-dire et non plus celui de l'ego, l'ego est mené par un mental, par une analyse, par une dualité, par de l'action en réaction, et par une identification à la matière. Quand on prend la voie de l'être, on va voir que la matière prend nettement moins le devant de la scène. On comprendra un certain nombre de choses. Donc d'abord, on va comprendre qu'il n'y a plus aucune question. Puisque ici, c'est la voie du cœur, ce n'est plus la voie du mental. Il n'y a plus aucune question. Donc plus on monte, et moins il y aura de questions. Vous comprendrez, hein, à fur et à mesure que j'avancerai dans ma démonstration. Il n'y a plus aucun jugement. Puisque le jugement, c'est de la comparaison qui va servir à la compétition, à l'attaque, à la survie. Là, il n'y a plus aucun jugement. Les choses sont ce qu'elles sont. L'individu aura une vision globale et non pas étriquée, unitaire et non pas dualitaire. Sa vision sera intemporelle. Vous voyez, parce qu'ici j'ai mis vision linéaire et sectaire, c'est une vision globale et unitaire. Là, eh bien, on avait une vision d'espace-temps avec un passé futur. Eh bien là, c'est une vision intemporelle, car le prétendant est tout simplement vit dans l'instant présent. Et quand on vit dans l'instant présent, on se fout du futur, parce que le passé, on n'a rien à plus à battre, puisque nous sommes vibration. Donc ici, nous sommes dans une géométrie, un cube, quelque chose qui nous enferme. Une prison. Alors que là, on est une vibration et on a donc cette liberté. Et puis, ici, tout peut arriver instantanément. Alors que là, on a une notion de processus, de progression. Alors on se dit, ouais, je suis en 3D, ça serait bien que je passe en 4D. Alors quand on me dit qu'il faut aller à la 24D, oh, oh là là, le méga problème. Ici, on s'en fout. Parce qu'on sait que de toute façon, au niveau du cœur, quand nous sommes dans l'instant présent, il peut tout arriver. Car nous avons compris que nous sommes dans un monde dit quantique, où on peut faire des sauts de puce énormes, de palier en palier, sans plus monter simplement des marches. Cela amène aussi qu'on n'a plus aucune croyance, puisque nous savons que les croyances, c'est par sécurité. Donc, plus aucune croyance. On sait que les croyances nous ont été utiles pour grimper les premières marches quand nous étions là. Mais une fois que nous sommes là, eh bien, il y a une notion d'ouverture, puisqu'il n'y a plus de notion de contrôle. Donc, on s'abandonne. On s'abandonne à la vibration, on s'abandonne à l'instant présent. On vit sa vie, on verra comment aussi. Donc, il n'y a plus aucune limite, parce qu'on a utilisé le lâcher-prise. Et donc, par l'abandon de soi à la vie, par un lâcher-prise qui nous donne encore plus de possibilités de s'abandonner, nous devenons plus humbles. Nous découvrons que la connaissance, l'accumulation de savoir et tout ça, il n'est pas utile. Vous voyez ? Alors, bien sûr, vous allez me dire, avant d'attaquer ça, on est passé là. Donc, bien, on découvre que plus on va vouloir avancer par là, plus il va falloir abandonner ce que nous avions acquis ici. Ainsi, ce que vous avez appris là, vous allez l'abandonner là. C'est fou, hein ? Alors, eh ben, on vit encore dans l'aspect densité. Et donc, comme nous vivons encore dans l'aspect densité, eh bien, ici, autant, on va dire le préhumain, si je dis un préhumain ici, puis ici je dis le marcheur, comme ça sera plus facile. Eh bien, tant qu'il croyait que la matière est réelle, celui-ci il sait que la matière n'est que du vide. Il sait que ce n'est qu'une projection holographique qui se fait dans sa tête. Mais comme il a son regard tourné vers l'extérieur, puisqu'il est dans un corps de matière avec des sens qui sont tournés vers l'extérieur, il a des perceptions. Mais il sait que ces perceptions ne sont pas la réalité. Elles sont la réalité par rapport à un monde extérieur, par rapport à une matière. Mais lui, les vibrations. Bref. Il sait aussi qu'il n'est pas son corps physique, que le corps physique n'est juste qu'un véhicule, puisque lui, il est une entité. Il est une particule du sans-nom. Alors pourquoi s'inquiéter de tout ça et dire qu'on finira au cimetière ? Non ? Il sait qu'il est tout et rien à la fois, Alors que là, celui-ci se dit qu'il est sa personnalité. Parce que le marcheur sait que il a de multiples fois, il s'est réincarné. Donc il possède à son arc des centaines, voire des milliers de vies différentes, avec des personnalités différentes, avec des acquis différents, avec des expériences différentes. Donc, quand il regarde un de ses frères, il sait que l'autre frère n'est qu'une partie de lui-même, est un miroir. Là, autant celui-ci, le préhumain, croit qu'il fabrique sa vie, lui sait qu'il a un contrat de vie, qu'il a des choses à venir régler parce qu'il n'a pas tout compris dans une vie précédente. Alors, ben, il suit la musique. Il ne cherche pas à maîtriser, contrôler et faire selon des critères. Il dit, mais si je fais ma vie, c'est-à-dire en suivant exactement mon contrat de vie, ma légende personnelle, comme certains disent, ben, tout va bien. Là, celui-ci croit en la chance et à son bonne ou mauvaise étoile. Lui, il sait que le hasard n'existe pas. Sa vie est pourrie de synchronicité. Donc il sait que, en fonction de sa vibration, il l'appellera à lui exactement ce dont il a besoin. Et donc, il remplira son contrat de vie en temps et en heure. Voilà. Sauf si, bien sûr, son mental vient foutre le bordel. Il croit en l'espoir d'un monde meilleur, d'un futur meilleur. C'est que le hasard n'existe pas, hein. Donc il vit sa paix intérieure dans son unicité. Oui, c'est pas compliqué. Là, il croit qu'il est un pion dans la dualité. Il est en permanence en action-réaction. Lui, par contre, il sait utiliser la complémentarité de la dualité. Il sait que rien n'est en opposition, mais que tout est cyclique, et que donc ces deux forces, eh bien, il faut les jouer avec dans leur complémentarité, c'est-à-dire faire un dans la dualité. Et on appelle ça tout bonnement la Trinité. Pour lui, c'est pas juste un baratin religieux, c'est quelque chose d'évident. Le préhumain croit qu'il faut se battre pour survivre. Lui sait qu'il faut vivre son instant présent. Donc il ne se pose pas de questions, il vit son instant présent. Il ne cherche pas le bonheur. Il est la joie incarnée parce qu'il vit son instant présent. Le préhumain croit que la vie est compétition. Lui, il sait qu'il n'y en a aucune compétition. La seule compétition à la rigueur que vous puissiez avoir, c'est envers vous-même, vos limitations, vos croyances et votre ignorance. Mais si vous suivez la musique, parce que vous êtes dans l'abandon, c'est-à-dire vous avez plus d'ouverture, que vous n'avez pas de limite parce que vous lâchez prise sur ce qui vous plombe, et que vous avancez avec humilité parce que vous savez que vos croyances ne sont en fait que des sécurités qui ont été mises par la peur, alors ben, il n'y a pas de compétition. Vous avancez tranquillos. Et puis ben, ici, autant le préhumain croit que de toute façon il finira au cimetière, lui sait qu'il est immortel. Alors pourquoi se prendre le chou? Et donc ici, par rapport à un cours en miracle, eh bien on découvre quoi? Que tout ce monde dans lequel nous vivons n'est pas réel, que tout ce monde n'est qu'une projection mentale de notre part. Mais comme nous, comment dire, projetons tous la même chose, c'est une réalité. Mais en fait, nous ne sommes qu'une conscience, enfin on va dire, qu'un esprit, qui tout simplement, dans son rêve, est en train de fabriquer tout ce monde. Et donc, l'une des grandes règles du cours en miracle, c'est de se dire que la vie est mouvement, mais que ce mouvement est en totale immobilité, car effectivement, votre conscience est immobile. C'est simplement ce qui se passe dedans, enfin, entre vos neurones en fait, qui vous fait croire que tout ça est mouvement. Et donc, vous êtes à la fois immobilité, ayant un mouvement, mais étant toujours à la même place. Vous voyez, c'est des concepts tout à fait relativement simples. Donc la mort est irréelle. Parce que, en fait, l'aspect densité que vous donnez est irréel, puisque vous êtes là. Donc, le courant miracle a pour objectif de vous faire comprendre que tout ce que vous prenez réel n'est en fait ne l'est pas, puisque vous êtes dans un état de rêve. Ce cycle que je montre ici est simplement ici, vous êtes un rêveur. Le sans nom est un rêveur. Il est là et il se fait tous les scénarios du monde. Et chaque être individualisé qui est de lui n'est tout simplement qu'un de ses rêves parmi d'autres rêves qui rêvent, mais pour qu'ils ne le prennent pas comme rêve, eh bien font l'expérience de l'ego qui dit mais non, c'est réel. Bon, je vais m'arrêter là, mais j'espère que vous avez compris en fait la mécanique dans laquelle nous sommes. Tout est illusoire, tout est irréel, car dans la réalité, il y a ce qui est. Point barre.